Nous pensons souvent que plus c'est mieux, n'est-ce pas? Plus c'est mieux. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, il est dit que deux valent mieux qu'un. Et souvent c'est vrai, deux amis c'est mieux qu'un seul, n'est-ce pas? Deux boules de glace c'est mieux qu'une seule. Le menu maxi c'est mieux que le menu normal. 6 semaines de vacances c'est beaucoup mieux qu'un petit week-end. Plus c'est mieux. Sauf quand on parle des impôts, n'est-ce pas? Des maladies. Deux pneus crevés, ce n'est pas mieux qu'un seul pneu crevé ou même aucun pneu crevé. Deux bras cassés, ce n'est pas mieux que deux bras en bonne santé. Plus d'impatience, plus de stress, plus d'égoïsme, ce n'est pas mieux que moins de ces choses. Dans l'Ecclésiaste chapitre 4, nous voyons que plus de soi, ça pose des problèmes. Plus de soi, ça amène plus d'avidité. Plus de soi, ça entraîne plus d'isolement au niveau des relations. Plus de soi, ça veut dire plus d'autonomie spirituelle, plus d'égarement, plus d'errance. En lisant le texte d'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 4 à 16, nous allons découvrir que plus, ce n'est pas toujours mieux. Nous allons découvrir, en fait, que plus de Dieu, ça veut dire moins de soi. Lisons donc Ecclésiaste, chapitre 4, versets 4 à 16. J'ai vu que toute peine et que tout succès d'une œuvre ne sont que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Cela encore est vanité et poursuite du vent. L'insensé se croise les bras et mange sa propre chair. Mieux vaut le creux de la main plein de repos que deux poignées de peine et de poursuite du vent. J'ai vu encore une autre vanité sous le soleil. Voilà un homme seul, sans personne d'autre. Il n'a ni fils, ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin. Même ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et prive mon âme de bonheur? C'est encore là une vanité et un souci malsain. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si l'on se couche à deux, on a chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister. La corde à trois brins ne seront pas vite. Un enfant indigne mais sage vaut mieux qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus se contrôler. Car ce garçon peut sortir des prisons pour régner. De même, celui qui règne peut être né pauvre. J'ai vu tous les vivants qui marchent sur le soleil être du côté de l'enfant qui se dressait comme successeur à la place de l'autre. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il se tenait. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car cela aussi n'est que vanité et poursuite du vent. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous savons que toute écriture est inspirée de toi, par toi, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Nous te prions de nous aider à comprendre ce que tu as révélé dans ce texte et d'appliquer ce message à notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Regardez les versets 4 à 6. Les versets 4 à 6. Plus de soi, ça veut dire tout d'abord plus d'avidité. Le Qohélète, c'est-à-dire le roi philosophe qui est l'auteur de ce livre, observe la jalousie et la convoitise qui existent chez l'homme. Il constate l'avarice. Il voit que l'homme veut plus de récompenses pour moins de travail. Il voit que sous le soleil, l'homme est centré sur lui-même. Il voit que plus de soi, ça finit mal. Au verset 4, le Kohelet soulève un problème que nous avons tous déjà constaté. La jalousie et la convoitise motivent les gens dans ce qu'ils font sous le soleil. Si mon ami a des nouvelles chaussures, à mon tour, j'achète des nouvelles chaussures. Si mon ami possède un nouveau portable, à mon tour, je réfléchis à prendre un nouveau portable aussi. Peut-être un portable de meilleure qualité que celui de mon ami. Si mon voisin a refait sa terrasse, moi aussi, je me mets à imaginer de nouveaux meubles pour mon jardin. Ou bien, je renonce à tout ça. J'abandonne la compétition au profit de la paresse, selon le verset 5. Ce qui nous montre l'autre extrême de l'avidité. Si on n'a pas assez de jalousie pour se motiver dans la vie, pourquoi pas se croiser les bras et manger sa propre chair, dit le verset 5. C'est l'autre extrême de l'égocentrisme. Ce verset décrit un gars qui est tellement paresseux qu'il meurt de sa paresse. Le verset 5 me fait penser au film « La folle histoire de l'espace », qui est un parodie de Star Wars. Et dans ce film, il y a un méchant gangster qui s'appelle Pizza le Hutt, d'accord? Pas Jabba le Hutt, mais Pizza le Hutt. Et Pizza le Hutt est fait de pizza, en fait. Mais ce méchant se retrouve à un moment coincé dans sa voiture, qui est fermée à clé, et il finit par avoir si faim qu'il se mange lui-même jusqu'à mourir. C'est ça l'image qu'on a du paresseux au verset 5. Au lieu d'amasser de la marchandise et des biens, il amasse plutôt ses propres capacités et son temps. Il les économise et les garde pour lui, sans les utiliser. Comme l'homme jaloux du verset 4, lui aussi est égocentrique. Mais après avoir fait cette comparaison entre le jaloux et le paresseux, le Kohelet revient au sujet de l'avidité au verset 6. Il nous dit que plus, ce n'est pas toujours mieux. Ça nous fait penser peut-être à la fable d'Ésope qui raconte l'histoire d'un chien qui, en traversant une rivière sur une planche, tient dans sa gueule un morceau de viande. Mais quand il voit son reflet dans l'eau, son avidité le pousse à vouloir attraper ce beau morceau de viande qu'il voit. Et donc, il lâche ce qu'il tenait dans sa bouche pour courir après cette image qui n'est qu'un reflet. Vous voyez? Finalement, il perd tout. C'est fou, mais c'est exactement ce que nous faisons. C'est une image de la convoitise et de l'avarice. Nous pensons que la situation est meilleure ailleurs que chez nous. Et par conséquent, nous négligeons les dons que Dieu nous donne. Et nous allons à la poursuite de chimères et en fin de compte à la poursuite de la ruine. Sous le soleil, nos motivations ne sont pas toujours justes. Nous devons nous poser la question, est-ce que nous cherchons à réussir au travail pour le bien de l'entreprise, pour servir notre patron, pour subvenir aux besoins de notre famille? Ou bien sommes-nous à la recherche d'un titre officiel, d'un meilleur bureau, ou de l'admiration, ou de la jalousie de nos collègues, les écoliers, les étudiants? Est-ce que vous cherchez à réussir dans vos études afin de mieux connaître le monde que Dieu a fait? Ou bien ce que vous recherchez, est-ce que c'est plutôt la satisfaction qui vient du fait de vaincre la concurrence? Quand nous servons dans l'Église, est-ce que c'est pour être reconnu et félicité? Ou bien est-ce que c'est pour l'édification du corps de Christ et de la gloire de Dieu? La question la plus importante, c'est où est mon cœur? Quand Dieu entre en compte, nous avons moins de raisons d'être centrés sur nous-mêmes. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, dit Jésus en Matthieu 6. Sous le soleil, l'avidité, c'est la réponse normale à une vie centrée sur soi. Ces versets nous montrent finalement que nous avons besoin de plus de Dieu et de moins de soi. Mais ensuite et deuxièmement, Nous voyons au verset 7 et 8 une vanité de plus qui se passe sous le soleil. Un homme qui est tout seul, il est sans famille, il est sans amis, il vit pour lui-même parce qu'il n'a rien d'autre. Le verset 8 nous suggère qu'il est tout seul pour peut-être deux raisons différentes ou différentes. En fait, d'abord, on a l'impression qu'il est seul à cause d'une absence de famille. Il n'a ni fils ni frère, dit le texte. Il est isolé, peut-être à cause de circonstances qui le dépassent. Et puisqu'il n'a personne dans sa vie, il remplit ce vide par la poursuite de richesses. Puisqu'il ne peut pas vivre pour les autres, dans son désespoir, il vit pour lui-même. C'est une personne oubliée, abandonnée et en fait isolée. On trouve partout des histoires tristes comme celle de cet homme. En juillet 2011, quelques policiers ont forcé la porte d'une maison qui semblait abandonnée dans la ville de Sydney, en Australie. Et à leur grande surprise, ils ont trouvé dans un lit, dans une chambre de la maison, les restes d'une femme qui était morte 8 ans, auparavant. 8 ans auparavant. Pendant 8 ans, ni sa famille, ni ses voisins n'ont essayé de la contacter. Les services publics n'ont rien remarqué d'anormal. Personne ne pensait à cette femme. Quelle situation misérable et triste, n'est-ce pas? Une pauvre femme oubliée par tout le monde. C'est ce genre de choses que le Kohelet voit sous le soleil. Mais ensuite, il regarde encore, il voit que cet homme isolé ne fait aucun effort de lui-même pour aller vers les autres. Il est obsédé par son travail, préoccupé par ses richesses. Dans son isolement, il y a quelqu'un ou quelque chose qui manque dans sa vie. Il a besoin d'amitié, il a besoin d'une communauté. Mais de lui-même, il préfère rester tout seul. Ça me fait penser à Howard Hughes, pour les anglophones, un aviateur, constructeur d'avions, homme d'affaires, réalisateur de films, un des hommes les plus puissants du XXe siècle. Hughes était riche et puissant, mais vers la fin de sa vie, il est devenu de plus en plus reclus. Craignant la possibilité d'attraper un virus, Hugues a passé les dernières années de sa vie caché dans une chambre, dans un hôtel de luxe. Toute la journée, il regardait des films. Il vivait tout nu, en se droguant de la morphine. Quelle situation misérable et triste, n'est-ce pas? Mais cette fois, c'était fait exprès. Plus d'isolement sous le soleil, ça ne résout pas les problèmes de la vie. Certaines personnes sont isolées à cause de circonstances qui leur échappent. D'autres sont isolées par leur propre choix. Mais en réalité, on n'est jamais tout seul. Au-dessus du soleil, il y a un Dieu qui voit tout. L'homme isolé du verset 8 cherche quelqu'un. Et celui qu'il cherche, c'est Jésus-Christ, le Seigneur. Dans le cantique, quel ami fidèle et tendre, les paroles soulignent une vérité extraordinaire. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. C'est vrai, n'est-ce pas? En fait, nous ne sommes jamais tout seuls en tant que chrétiens. Nous avons un Père céleste, nous avons un frère en Jésus. Nous avons une communauté à laquelle nous appartenons. Rien peut nous séparer de l'amour de Christ. Nous ne sommes jamais isolés de Dieu et nous ne devrions jamais être isolés du corps de Christ, c'est-à-dire de l'Église. Quand Dieu entre en compte, notre isolement, quel qu'il soit, ça diminue. On peut mettre les choses dans leur juste contexte. Sous le soleil, l'homme du verset 8 est isolé. Mais vous, en tant que chrétien, vous avez une relation avec Dieu grâce à l'œuvre de Jésus à la croix et par la foi en lui. Le Saint-Esprit de Dieu demeure en votre cœur. sous le soleil. L'homme, du verset 8, poursuit la richesse et il travaille pour lui-même. Mais vous, en tant que chrétien, vous ne travaillez pas juste pour vous-même, mais pour le Seigneur et pour le bien de l'Église. Vous avez tous une responsabilité les uns envers les autres, afin que personne dans l'assemblée ne se trouve isolé du corps de Christ. Nous ne vivons pas tout seuls pour nous-mêmes, mais nous vivons en communion avec d'autres croyants. Dans l'Église, on profite de plus de Dieu et de moins de soi. Enfin, dans la troisième partie de ce texte, le Kohelet s'intéresse au problème de l'autonomie. Et encore une fois, nous voyons que nous avons besoin de plus de Dieu et de moins de soi. Selon les versets 9 à 16, l'autosuffisance et l'autonomie ne suffisent pas pour nous sauver de nos plus grands problèmes. Le Kohelet nous dit que nous ne pouvons pas le faire tout seul. Deux valent mieux qu'un. On a besoin de quelqu'un pour nous aider et pour nous protéger. Ça tranche avec la doctrine de notre monde qui nous dit que l'autonomie est une formidable valeur morale. Ne dépendez de personne, nous dit le monde. Vous devez faire ce qui est mieux pour vous à vos propres yeux, nous dit le monde. Mais les versets 13 à 16 nous offrent une réponse pratique à cette autonomie destructrice. Tout simplement, l'idée de ces versets, c'est que le bon roi est celui qui écoute la sagesse de Dieu et des autres. L'autosuffisance, en fait, ce n'est pas toujours une vertu. Chacun de mes enfants passe à un moment ou à un autre par un stade où ils s'insistent sur le fait qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Si vous êtes parents, vous connaissez. Si on ferme leur veste, ils la rouvrent afin de la refermer, juste pour manifester leur autonomie. Si on leur donne une cuillère de légumes, ils la reposent et insistent pour manger tout seuls, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'un peu d'autonomie, c'est bien. Mais il y a certains cas où on ne peut pas se débrouiller tout seul. En l'occurrence, il est impossible d'échapper à la vanité, à la poursuite du vent sous le soleil, en étant autosuffisant et autonome. On a besoin de plus de Dieu et de moins de soi. Ça, c'est exactement l'idée, en fait, de l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est que malgré notre insuffisance morale et spirituelle qui nous sépare éternellement de Dieu, Dieu vient vers nous. Il fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. C'est une bonne nouvelle si nous pouvons nous humilier devant Dieu. Mais le fait d'accepter cette grâce de Dieu, ça va à l'encontre de notre nature orgueilleuse qui recherche bien plutôt l'indépendance. Dans son désir d'autonomie, l'homme est persuadé qu'il peut faire l'impossible. Imaginez en fait un homme qui compte rembourser une dette de 1000 milliards d'euros avec le salaire d'une fonctionnaire. Imaginez un homme qui compte traverser la mer en retenant son souffle. Imaginez un homme qui compte restaurer sa relation avec le Dieu trois fois saint de l'univers sur la base de ses propres bonnes œuvres. C'est impossible. Impossible. On a besoin de plus de Dieu et de moins de soi. Dans ce dernier cas, le cas de notre salut, deux valent mieux qu'un. En fait, deux sont nécessaires. Notre foi et notre repentance ne suffisent pas s'il n'y a pas d'abord un Dieu de grâce qui nous donne cette foi, qui transforme notre cœur de pierre. Et donc, pour résumer, il y a trois choses que nous apprenons de ce texte. Premièrement, soyez satisfait de ce que Dieu vous donne. Où est votre trésor? Où est votre cœur? Que recherchez-vous, Dieu ou vous-même? Quand Dieu entre en compte, nous avons moins de raisons de nous centrer sur nous-mêmes et d'être obsédés par ce que pensent les autres. Mais deuxièmement, Rappelez-vous que vous n'êtes jamais tout seul. Il y a un Dieu qui entre en compte et qui nous aime éternellement. Dieu nous a cherchés même quand nous nous étions isolés nous-mêmes de sa présence. Et enfin, recevez la sagesse de Dieu qui corrige notre folie et recevez l'aide de Dieu qui nous sauve de notre autonomie destructrice. Moins de soi, ça veut dire plus de Dieu, plus de nos prochains, plus de communauté. En fin de compte, c'est en Christ que notre avidité, notre isolement, notre autonomie sont corrigés. Par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons être sauvés de notre autodestruction. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions de ce que nous ne sommes pas tout seuls dans un monde dépourvu de sens. Nous te remercions de ce que tu donnes une réponse à notre isolement et à notre insuffisance. Nous te remercions de ce que nous, des êtres simples, des êtres finis, limités, nous ne sommes pas les auteurs de notre salut. En revanche, nous avons un Dieu dont l'amour est infini et dont la grâce surabonde. Aide-nous à vivre conformément à cette réalité. Au nom de Jésus. Amen.